Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'alcool, l'alcoolisme, les dangers de l'alcoolisme, mais aussi un nouveau traitement qui fait surface. Nous avions reçu en 2008 le docteur Olivia Mézène pour son livre paru chez De Noël, Le Dernier Verre. Mais les choses avancent énormément à une vitesse incroyable. Voilà, le docteur Olivia Mézène a inventé le traitement contre l'alcool. Notre invitée, Olivia Mézène, donc bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois. Vous étiez venue dans cette émission en 2008 et pour cause, vous aviez sorti à l'époque ce livre, Le Dernier Verre, paru chez De Noël. Alors pourquoi je vous invite à nouveau? Et oui, c'est la question, même si ça nous fait toujours plaisir. C'est qu'il y a eu une évolution. Nous, on a été finalement un peu les premiers à vous interviewer sur ce sujet. Et j'ai eu raison de le faire parce que vous avez, disons-le tout de suite, inventé le traitement contre l'alcoolisme.
Oui. Pas seulement contre l'alcoolisme, d'ailleurs, c'est les dépendances. C'est-à-dire que ça marche très bien sur le tabac, la cocaïne, l'héroïne et la boulimie, par exemple.
Alors, on va réexpliquer à nos auditeurs, parce que peut-être que certains ont oublié, même si on vous voit de plus en plus dans tous les médias, quelles que soient les chaînes, maintenant, vous êtes l'invité un peu partout. Le The Guardian, en mai 2010, disait que c'était la découverte médicale la plus importante du siècle. On va expliquer comment ça s'est passé. On va revenir un peu sur l'historique, sur l'origine, la genèse de cette fameuse histoire. Docteur Olivia Mézène, vous êtes d'abord né à Paris.
Oui, je suis né à Paris. Je voulais juste faire une remarque sur le titre. Mon titre est en fait professeur et je suis, donc mon titre actuel est professeur de médecine et de cardiologie à l'Université de l'État de New York et expert international en addictologie. Et je suis guéri depuis 8 ans. C'est si l'université, avant j'étais professeur à Cornell en médecine et en cardiologie, mais si l'unité de l'université, quand une université américaine vous débauche, c'est pas pour vos beaux yeux, c'est pour eux en fait, ouais. C'est parce qu'ils veulent leur nom associé à une découverte.
Avec une découverte d'une grande importance. Pour moi, je pense qu'on est en train d'assister à quelque chose de révolutionnaire avec vous, docteur, professeur même, Olivia Mézène.
Oui, il se passe une chose, les Américains, alors les Français sont toujours à la traîne, bon, dans le domaine de l'addicto, la France est, je veux dire, à peu près nulle. Et par contre, les anglo-saxons disent que ce livre, Le Dernier Verre, est le livre qui a, c'est la première fois dans l'histoire qu'un livre a transformé le cours d'une maladie. C'est-à-dire qu'on avait, avec les traitements actuels, on a 0% de réussite, 120 morts par jour seulement en France, et les traitements n'apportent rien. Avec ce traitement, on a maintenant des taux allant de 70 à 90% de réussite. Il y a des gens qui, là encore une fois, c'est opérateur dépendant. C'est comme pour faire un pontage, il y en a qui soignent bien, il y en a qui soignent moins bien.
Alors, avant d'aller aussi loin, parce que nos auditeurs ne savent pas trop de quoi on parle, vous, votre histoire...
Juste encore, pour le dernier verre, si les gens veulent le commander, qu'ils ne commandent pas sur Amazon, parce qu'il est en rupture de stock.
On va leur donner d'abord envie d'acheter ce livre.
Exactement.
Et on donnera, bien sûr, à la fin, tous les moyens de pouvoir se procurer ce livre, qui est donc paru en 2008 et qui est évidemment en rupture de stock. Il va être republié, j'imagine.
Tout de suite. Et mon site internet aussi est www.oliviermezen.fr. Ne tapez pas baclofen, c'est le nom du médicament, mais celui-là, parce qu'on dit beaucoup de bêtises. En
alors, vous voyez, Olivier, vous en dites beaucoup trop pour l'instant. On va essayer d'abord de raconter un peu l'histoire pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. Vous êtes né à Paris, on va le faire très rapidement. Voilà. Vous faites de brillantes études, vous faites des études de médecine, vous êtes... finalement professeur en cardiologie à New York. Et là, vous êtes confronté à une vie sociale. Vous avez besoin, pour vivre dans cette vie sociale, de vous prendre un premier verre, justement, d'alcool, parce que vous n'êtes pas du tout... vous n'avez pas, au départ, un penchant pour l'alcool du tout. C'est ni dans votre culture familiale, ni en vous. Mais c'est un verre qui va vous servir à vous aider, à vous socialiser, finalement, à parler un peu avec les gens. Et de ce premier verre va naître un second, puis un troisième, etc. Pour plonger ensuite dans un véritable alcoolisme qui va, du coup, lui, vous désocialiser.
Oh, mais tuer, pratiquement. Heureusement, normalement, j'aurais dû mourir. Mais c'est étonnant, j'ai guéri sans séquelles. Je suis, aujourd'hui, je me porte heureusement très bien. Je n'ai absolument aucune séquelle. Mais tout a commencé, comme vous le disiez très bien, Karen, par une timidité qui date de l'enfance. Ouais. Donc, je crois que la Shoah, on a vu que les enfants, mes parents étaient tous deux, ma mère a survécu à Auschwitz, mon père était lui-même dans des camps de prisonniers, c'était pas les camps d'extermination, mais on dit qu'il y a des études qui montrent à Brooklyn, dans les universités américaines, que les enfants et même petits-enfants de survivants de tel traumatisme ont des troubles de type timidité, anxiété, etc. Donc je ne me sentais pas moi-même. Et curieusement, dans cette timidité, je sortais dans des soirées, vous savez, à New York, vous allez à l'ONU, alors il y avait des diplomates qui m'invitaient, etc. Et comme je suis pianiste, j'avais joué pour Arthur Rubinstein, qui m'avait dit « ne faites pas médecine, mais le piano
». C'est peut-être pas encore terminé. Hein.
Non, j'adore. Il y a peut-être une carrière. Toujours, oui, et je n'avais pas suivi son conseil, et pourtant c'était mon idole musicale. J'ai fait médecine, j'ai passé mon bac en classe de seconde à l'âge de 16 ans.
Ouais, brillant, pas. En fait.
Hein. Oui, et j'ai commencé donc tout de suite médecine en France. En France, j'ai été en 1980, j'étais le médecin de Matignon, de Raymond Barre, et je voyageais officiellement avec lui. Nous sommes restés très bons amis jusqu'à la fin. Et donc j'avais une carrière brillante. Mais le problème, c'est qu'elle était sur papier, mon CV était époustouflant. Quand Harvard, par exemple, m'acceptait pour faire un post-doc là-bas, je me disais, Harvard n'a rien compris. C'est que chaque fois que quelqu'un a encore...
Pour vous, vous étiez un imposteur, finalement.
Un imposteur, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et on dit que c'est ceux qui ne le sont pas partout.
Votre timidité était telle que vous aviez l'impression de ne pas être à votre place, de ne pas mériter cette place.
De ne pas mériter cette place, exactement. Ouais. Lorsqu'une femme me regardait, je me disais, pourquoi me regarde-t-elle? Et je ne pouvais pas séduire une femme sans un verre à la main. C'était terrible, je ne pouvais pas parler. Ce verre a été mon médicament, l'alcool a été un médicament extraordinaire.
Alors quand vous avez sombré dans cet alcool et dans cet alcoolisme, vous avez donc fait énormément de... vous avez eu des problèmes de santé, vous êtes retrouvé dans la rue, vous êtes...
Pas dans la rue, non.
Vous êtes des accidents terribles aux urgences des hôpitaux.
Ouais, d'autres hôpitaux.
Avez fait des cures aussi.
J'ai fait des cures. J'ai essayé tous les traitements possibles existants. J'étais entouré des meilleurs spécialistes à la fois en addiction, en neurologie. Et lorsque je leur dis, c'est quand on a un ulcère ou un cancer, peu importe, on vous dit, bon, ben, le cancer, vous aurez une tumérectomie, vous aurez une chimio, vous venez le mardi, bras gauche, etc. C'est assez codifié, c'est facile.
Ouais.
Là, j'ai dit quelqu'un a un problème, pour ne pas dire moi, parce que c'est une maladie tellement honteuse.
Bien sûr.
Un problème d'alcoolisme, on dit oulala, t'en mêles pas. Et c'est expert. Et quand j'ai dit c'est moi, on m'a dit oulala, je ne sais pas. Et je disais, dois-je aller en alcoolique anonyme? Mais les personnes en face de moi me disaient, personnellement, je n'irai pas, mais si tu veux, vas-y. J'ai assisté à 5000 réunions.
C'est incroyable. 5000 réunions qui n'ont finalement servi à rien.
À rien.
Parce qu'à chaque fois que vous sortiez de ces réunions, vous replongiez, quoi.
Et puis j'allais, alors ensuite j'ai fait des cures de désintoxication pendant 5 jours, je replongeais le jour même. Je suis allé en cure, je ne peux pas vous énumérer le nombre de cures et le nombre de mois par an dans les meilleurs aux États-Unis, puis en France. Et dès le jour de la sortie, comme toujours, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la porte-tambour des cures. Les cures ne marchent pas, ne servent à rien, et tout le monde le sait. Les Américains d'ailleurs ne les remboursent plus. Et donc, l'alcoolisme en France est un business qui fait vivre beaucoup de monde, mais qui finalement ne sert à rien.
Et vous, en fait, vous aviez quand même gardé un espace de lucidité dans votre vie, c'est-à-dire que malgré cet alcoolisme qui vous rongeait finalement votre vie, vous aviez quand même parfois des plages de lucidité.
Énormément. Je ne buvais pas tous les jours, je buvais par cuite, donc la cuite durait X jours. Et entre-temps, je me disais, Olivier, je ne comprends pas, tu as une volonté de faire... Tu as une intelligence qui n'est pas quand même négligeable. Comment se fait-il, et je ne comprenais pas à l'époque que ce n'est pas au niveau du cortex que ça se passe, où il y a l'intelligence et la volonté, comment peux-tu ne pas réussir à arrêter simplement de boire? Et là, j'étais devant un mur, et j'ai tout essayé, rien ne marchait. Et là, mais quelque part au fond de moi, c'est peut-être les gènes des enfants de survivants, je me disais... Je savais qu'un traitement, je savais que c'était une
maladie. Il y avait un instinct de survie, l'instinct de survie du peuple juif.
Et surtout, que voilà, comme vous le dites, et surtout, je me disais, c'est une maladie biologique. C'était évident pour moi. Donc, il y aura un traitement. Et tous les jours, à un moment, je me suis mis sur Google pour voir, y a-t-il un nouveau traitement. Et quand j'ai compris qu'il n'en sortirait pas, je me suis dit, Olivier, t'as deux options, mourir ou trouver la solution. Je n'y croyais pas du tout. Et j'ai commencé à me plonger dans des recherches sur Internet, sur les sites PubMed, etc. Et j'ai épluché à peu près 200 000 abstracts en 2 ans, c'est-à-dire des résumés, dans lesquels j'ai finalement trouvé que chez l'animal, et j'ai fait un modèle, ce qu'on appelle translationnel, que chez l'animal, en 96, un article avait été écrit. Le dogme était qu'il faut réduire le craving, ce mot que j'ai introduit
craving,
en France.
Craving, C-R-A-V-I-N-G.
Voilà, c'est un mot qu'on ne connaissait pas en France, je l'ai introduit. Et le mot veut dire cette envie complètement irrésistible de boire, c'est-à-dire que le cerveau est recircuité pour que l'alcoolique pense que l'alcool est indispensable à la vie, plus que l'eau, plus que la nourriture. Même chose chez les rats, rendus alcoolodépendants. Cocaïno-dépendants, lorsqu'on leur administre du baclofène, c'est le nom du médicament, vous augmentez la dose, ils s'arrêtent alors qu'ils ne savent pas que c'est mauvais pour la santé, ils s'arrêtent de consommer.
Vous en avez dit déjà beaucoup. Dans un instant, vous allez peut-être expliquer aux auditeurs quel est l'effet de ce baclofène et comment vous avez finalement trouvé le traitement contre l'alcoolisme. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 01 42 17 10 11. Je reçois aujourd'hui le docteur Olivier Amezen, professeur Olivier Amezen. D'ailleurs, ils ont fait une erreur sur le livre.
Non, pas du tout. Je l'ai fait exprès pour que le public se sente plus proche de moi.
Ah. Alors, nous recevons le professeur Olivier Amezen, l'inventeur du traitement contre l'alcoolisme. Baclofène, c'est le nom d'un médicament. Vous avez découvert ça, finalement, comme vous dites, en recueillant énormément d'abstracts sur Internet.
Oui.
Internet, finalement, a participé à sauver votre vie et la vie de beaucoup de gens, finalement.
C'est le triomphe d'Internet. Ouais. C'est le triomphe d'Internet. C'est-à-dire que sans Internet, moi, j'ai pu chez moi, si je puis dire, dans ma cuisine, trouver le traitement, alors que les chercheurs avaient exactement les mêmes données que moi depuis 1996.
Et qu'est-ce qui a fait, justement, que, en fait, ces chercheurs avaient, finalement, sous les yeux quelque chose qui a servi, justement, finalement, à ce que vous avez trouvé, mais qu'ils ne l'ont pas trouvé eux-mêmes? C'est votre envie, c'était votre désir de survie, c'est
mais
ça?
C'était, pour eux, c'était, vous savez, je programme mes vacances, mes cours, etc., après je rentre chez moi, etc. Pour moi, c'était trouver ou mourir. Donc la motivation n'était pas la même. Pour moi, elle était trouver ou mourir.
C'est ça.
J'avais pas le choix.
Il n'y avait pas de choix.
Je ne pensais pas que je trouverais.
En fouillant, quel abstract vous avez justement, vous êtes rendu compte que ce baclofène qui est utilisé en fait tout simplement contre le torticolis, c'est un médicament qui est prescrit depuis très nombreuses années pour soulager d'un torticolis en fait.
Oui, il est prescrit exactement depuis 50 ans.
Voilà.
Les anglo-saxons, les français ne le manient pas bien. Les anglo-saxons l'utilisent en routine médicale quand vous avez des spasmes musculaires, en traitement de ce qu'on appelle de confort pour des maladies tout à fait des symptômes bénins, c'est-à-dire que vous avez des crampes musculaires, on vous le donnera avec 20 ans, 30 ans de recul, on vous le donne en routine à des doses de par exemple 300 mg par jour, et d'ailleurs on n'a jamais demandé aucun essai clinique, ils le font, c'est pour soulager ces douleurs qu'ils le font, alors qu'ici on se trouve devant une maladie mortelle, et les gens sont réticents en France. La France est le seul pays qui émet des réserves. Aux États-Unis, moi je donne des cours à Harvard.
En tout cas, les choses ont quand même changé depuis la publication du livre en 2008 et aujourd'hui.
Oui.
Aujourd'hui, on vous croit plus, il y a des médecins qui prescrivent la façon dont vous le recommandez, ce fameux baclofène, avec dose dépendante, c'est-à-dire qu'on peut augmenter plus ou moins la dose.
Voilà. Jusqu'à ce que le patient vous dise, je n'ai plus, quand même, s'il a mal à la tête, vous n'avez pas augmenté la dose. Mais en France, je veux dire que je dois rendre hommage aux généralistes et aux psychiatres. Les addictologues se battent bec et ongle contre. Pourquoi? Parce que on dit dans les forums, etc., surtout n'allez pas voir un addictologue, parce qu'il va perdre, c'est-à-dire vous allez le voir, lui payer 100 ou 130 euros, et puis après vous lui direz au revoir, merci docteur, vous m'avez donné du baclofène, et je suis guéri. Donc ils vont changer de travail. Quoi. C'est ce qui s'est passé pour l'ulcère. On a fermé les sanatoriums dès qu'on a découvert les antituberculeux. Donc maintenant, vous n'allez pas voir un expert de la grippe ou de l'hypertension, vous allez voir votre médecin généraliste.
Ouais.
Les médecins donc le font, mais par contre n'utilisent pour la plupart pas ma méthode. Ils utilisent des méthodes qui marchent moins bien qu'à l'étranger, où je les ai formés en France. Je n'ai pas encore. Donc je vais bientôt former des médecins généralistes en France pour qu'ils puissent le prescrire bien. Ils le prescrivent bien pour ça.
Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé entre 2008 et 2012? Qu'est-ce qui a fait que finalement vous avez été enfin écouté? Parce que lorsque je vous ai reçu en 2008, c'était à peine les balbutiements. Vous étiez un peu seul dans votre combat.
Seul en France.
En France.
Aux États-Unis, je vous dis, j'étais invité à donner des cours, à des conférences, à Harvard, à Columbia, je ne vais pas faire la liste, à Zurich, à Amsterdam, etc. Il n'y avait qu'en France, ma première conférence universitaire en France. Et en 2012, le 24 janvier 2012 à Cochin, il y avait les plus grandes sommités de la médecine. Le chef de service d'Alicto de Zurich a fait le déplacement. Il y avait un membre du Conseil constitutionnel qui s'est déplacé.
Il y avait aussi, surtout, des personnes qui sont venues témoigner et dire « J'ai essayé réveillé le baclofène.
Ouais. Et que j'ai guéri.
Je vous remercie, exactement. Professeur Olivia ouais. Mézène, parce qu'aujourd'hui, je suis guéri
ouais. de l'alcoolisme. Grâce à la lecture de mon livre. Ils ont lu mon livre. Ouais. Ils l'ont montré. Ce qui se passe, c'est qu'ils lisent le livre, ils l'amènent à leur médecin, ou c'est l'inverse. Le médecin leur dit « lisez ce livre ». Mais je vous parlerai à la fin, si vous avez le temps, de peut-être de quelqu'un qui s'appelle Katia, c'est intéressant, qui était venue à ma conférence, qui mm-hmm. est depuis guérie d'ailleurs, et qui était patiente de quelqu'un. Mais une chose qui a quand même obligé les Français, quand même, les Français ne lisent pas, comme dit Philippe Even, doyen de Necker, ne manient pas la langue de la science, qui est l'anglais. Mais quand cet article que je vous montre, est sorti le 6 mai de l'année dernière, le 6 mai, c'est Science, c'est avec Nature, Nature.
Ouais, nature c'est,
voilà.
c'est
Science et Nature sont les deux plus grandes revues
médicales.
Fait un article en disant, comme titre, un alcoolique anonyme finance un essai d'un traitement. Il a donné $500,000 à l'université d'Amsterdam pour un essai clinique que je réclame depuis 2004. Ils font une couverture, enfin une pleine page en ligne et en papier avec la photo de mon bouquin, couverture, qui s'appelle « The End of My Addiction » en anglais, et ma photo. Je peux vous dire que Science ne s'amuserait pas à mettre sa crédibilité ouais. derrière quelqu'un. Ce serait la fin de Science s'ils avaient fait ça. Donc, quand ouais. Science... J'ai publié
d'ailleurs,
dans
Jean Dosset, qui est un prix Nobel de médecine, a dit « Amezen a découvert le traitement de l'addiction ».
Oui. Oui, il est malheureusement décédé. Ouais. Il était, lui, un des premiers en France à avoir, le premier d'ailleurs, qui, sur lecture de mon article scientifique de 2005, j'ai publié dans JAMA, dans l'Orset, etc., l'a lu et l'a compris. Les autres ont attendu la sortie de mon livre en 2008 pour commencer à prescrire. Donc la France a un retard énorme.
Ouais. Le baclofène en question, donc ce oui. fameux traitement qui est utilisé donc contre les torticolis, mais qui justement permet de s'en sortir de cet alcoolisme, oui. C'était une question qui avait été posée notamment à l'hôpital Cochin lors de votre oui. conférence et qui demandait est-ce que c'est un traitement une fois qu'on le prend, on doit le prendre à vie ou est-ce qu'à un moment donné est-ce qu'on guérit de ce craving justement ou est-ce qu'on guérit un jour de cet alcoolisme latent
Non, car c'est une maladie biologique. Il y a ce que j'ai fait une hypothèse qui se vérifie chez l'animal, que c'est en fait un déficit biologique en le GHB. Donc, vous l'avez à vie. Et le problème, pourquoi moi je n'arrêterai pas le baclofène? Pas parce que je ne peux plus replonger après 8 ans, mais parce que le baclofène, ce qui se passe quand vous guérissez quelqu'un, la première phase, vous voyez la personne arriver, et les personnes ont un mal-être, soit anxiété, soit dépression. Vous les voyez arriver avec un sourire, un bien-être qu'ils n'avaient, moi je n'avais jamais, si j'étais mort, je n'aurais pas su ce que c'est le bonheur dans la vie. Et c'est ce qui se passe. D'abord, ils sont heureux. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont tellement bien et heureux, alors que ce n'est pas une drogue, ce n'est pas addictogène. Ils vous disent, au bout de quelques jours de traitement, mais je n'ai pas besoin d'alcool pour aller mieux, puisque je vais mieux qu'avec l'alcool. Donc, ils laissent tomber leur héroïne. La méthadone est abandonnée maintenant. Tous les substituts. Le baclofène n'est pas du tout un traitement substitutif, comme la nicotine pour les cigarettes, etc. C'est un traitement qui traite au niveau du cerveau, mais complètement anodin, bénin, inoffensif, bien moins dangereux que l'aspirine ou le paracétamol.
Vous dites par exemple que le baclofène contre l'alcoolisme doit être utilisé comme quelqu'un qui prend un anticholestérolémique en cas de problème de cholestérol.
C'est-à-dire exactement comme vous le dites magnifiquement, Karen, si vous avez un cholestérol élevé, si vous avez une hypertension artérielle, vous me direz, est-ce que je peux prendre le traitement 3 mois et puis après l'arrêter? Je dis oui, si j'ai envie de faire une hémorragie cérébrale. Alors, comment mesure-t-on l'efficacité d'un traitement? Prenez le cas du sida, prenez le cas de l'hypertension. Lorsque j'étudiais la médecine, l'hypertension faisait à peu près 100% de la maladie, on l'appelait le tueur silencieux. C'était une maladie effroyable. Aujourd'hui, la mortalité de l'hypertension artérielle traitée est passée de quasiment à 0%. Ouais. Même chose pour le sida, qui était un arrêt de mort, 100% de mort. Et on est passé aujourd'hui à peine 2% de mortalité.
Ouais, malgré le fait que ces trithérapies soient quand même des traitements lourds.
Hein. Très lourds, alors que le baclofène est un traitement complètement anodin, on se sent mieux.
Vous le dites d'ailleurs, vous comparez, vous avez apporté quelques boîtes dans le studio. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu une frilosité par rapport à ce baclofène, alors qu'on prescrit quand même des médicaments qui sont quand même potentiellement dangereux en termes d'effets secondaires et d'accoutumance.
Voilà. Aujourd'hui, un alcoolique est mieux, a plus de chances de vivre ou de survivre s'il ne va pas voir de médecin que s'il va en voir un. Sauf si le médecin lui prescrit le baclofène. Parce qu'il se verra. Alors on dit le baclofène fait somnoler. Comme vous le voyez, Karen, je vous ai amené les boîtes. Le baclofène ici fait une petite alerte orange qui dit « Soyez très prudent, ne conduisez pas sans l'avis d'un professionnel de santé ». C'est la même chose pour le Xanax, alerte orange. Par contre, ils vous prescrivent du Valium, qui est une alerte rouge, ouais. Ne pas conduire, etc., etc., et du Stilnox. Alors, si vous sortez de chez un médecin, vous aurez des ordonnances dangereuses qui vous nous rendront dépendants. Donc, il vaut mieux ne pas en voir un, sauf s'il lui dit « Docteur, prescrivez-vous le baclofène ». S'il vous dit non, vous allez voir celui qui le prescrit. Il y en a plein maintenant en France.
Alors justement, qui prescrit le baclofène et qui ne prescrit pas le baclofène?
Alors c'est très simple. Les généraux, n'importe quel bon généraliste, tout le monde prescrit le baclofène, qui a le droit d'exercer la médecine en France ou ailleurs. Donc ce sont les médecins généralistes et certains psychiatres. Par contre, qui ne le prescrit pas, c'est évidemment ceux qui en vivent, c'est-à-dire les addictologues et les alcoologues. Donc c'est surtout les gens à ne pas voir, parce qu'ils vous diront « je ne vous en donnerai pas », ils le disent. Donc surtout à éviter, alcoologues, addictologues qui freinent. Je veux dire, malheureusement, l'addictologie universitaire française est en train de faire quelque chose de grave. Les professeurs, etc., de la Société française d'alcoologie, c'est non-assistance à personne en danger. Ils laissent mourir les gens en disant « je ne sais pas si ce médicament ne donnera pas des cors aux pieds dans je ne sais pas quoi ». Et ils sont véritablement les larbins de l'industrie pharmaceutique parce qu'ils préparent un nouveau médicament. Vous savez que l'Agence française des médicaments a laissé passer. L'Agence américaine du médicament a interdit le Mediator dès 2000. A interdit les prothèses PIP, a tout de suite dit qu'elle se fissurait, l'accomplia. L'agence américaine protège le citoyen américain. La France a laissé passer ces médicaments-là en exposant la santé du Français.
Et du coup, j'ai envie de dire que l'effet Mediator, oui, rejaillit sur le baclofène qui, lui,
oui, c'est une stupidité.
A plus d'intérêt positif que négatif,
faute,
finalement.
Voilà, c'est une faute grave de l'Agence française du médicament qui se trouve maintenant sur la sellette, comme le fait d'après avoir approuvé, alors que les Américains ont interdit les prothèses PIP, ils n'approuvent pas, on s'en fiche de leur approbation, les autorités françaises, puisque aux États-Unis, moi, quand je prescris un médicament, je regarde toujours s'il est approuvé par la FDA, Food and Drug Administration, qui est l'agence américaine du médicament. S'il ne l'est pas, je ne le prends pas pour moi, ni je ne le prescris. S'il est approuvé par la FSAPS, enfin l'agence française, je ne le prescris pas parce que je vérifie s'il est approuvé. Donc il faut faire ça, toujours vérifier s'il est approuvé par par une agence sérieuse et non pas l'agence française du médicament qui est en train, en plus, d'essayer de sortir un nouveau médicament qui s'appelle le Nalmefed. Et donc là, il y a un grand conflit d'intérêts.
Qui ferait quoi?
Qui rime avec baclofène comme l'ibuprofène, mais qui n'a rien à voir. Ouais. Ce médicament vous permet, si vous passez...
Ne pas confondre d'ailleurs baclofène avec ibuprofène,
surtout
ça n'a rien à
plus,
voir.
Rien à voir. Si vous prenez 18 verres par jour quand vous sortez je ne sais où, ça vous permet d'en prendre 16. Bravo, le résultat. Par contre, personne ne sait si le Nalmefed pris. Les Américains disent qu'il ne sert à rien et ont refusé d'octroyer l'autorisation de mise sur le marché à ce médicament en disant qui nous dit qu'au bout d'un an il n'y aura pas plus de cancer de sein, plus d'infarctus du myocarde, on n'en sait rien. Mais on va nous le donner en France. Donc on sera les cobayes, enfin on sera la poubelle une fois des États-Unis. Mais encore une fois, vous...
C'est vrai que vous êtes, on le sent, vous êtes aussi très en colère, professeur Olivier Amezen, parce qu'on ne vous a pas entendu.
Non, je suis très content.
On ne vous a pas écouté beaucoup en France. On a mis du temps, on a mis trop de temps.
Non, en France, c'est une tragédie pour le malade.
Je rappelle, comme vous le dites, c'est 120 morts par jour, l'alcoolisme.
Morts par jour, plus que n'importe quel cancer individuellement, plus que le cancer du poumon, plus que le cancer du côlon. Ces gens en France qui regardent les patients mourir et qui dorment la nuit et qui vous disent « Oh, je ne prescris pas les addictologues », et eux ont des centres, vous savez, hospitaliers qui vont bien sûr fermer. Nous hospitalisons, nous les prescripteurs, moi je n'ai jamais hospitalisé quelqu'un pendant une seule nuit, c'est un traitement à prendre en ambulatoire chez vous. Et voilà, donc c'est un traitement simple, facile à prendre.
Est-ce que les patients, justement, qui sont suivis par ces généralistes qui prescrivent ce baclofène en vue de d'en finir avec l'alcoolisme, est-ce que ces personnes-là...
Et les addictions.
Et les addictions, et les autres addictions. Oui. Parce que c'est le même principe, comme vous l'avez expliqué.
C'est la même chose, c'est la dopamine au niveau du cerveau.
Est-ce que, justement, ces patients reviennent voir leurs généralistes? Est-ce qu'ils sont suivis? Est-ce qu'ils doivent revenir les voir, je sais pas moi, une fois tous les mois, toutes les semaines?
Une fois, en général, une fois par mois. Moi, mes patients, je vais vous dire, je vous parlerai de Katia justement, je les traite, c'est surtout par téléphone, je veux dire, quand vous parlez, moi j'ai l'avantage, si je puis dire, c'est un peu triste à dire, j'ai été alcoolique, donc je connais cette maladie comme ma poche, donc je sais quels sont les faits, quand quelqu'un prend du baclofène, ça vous ne l'apprenez pas dans mes livres, beaucoup de médecins français n'ont même pas lu mon livre, alors que les Américains, les Australiens, les trucs, la notent d'un bout à l'autre, mais les patients qui le lisent ont une guérison.
Moi je dis que c'est un livre révolutionnaire.
Oui, et que les patients doivent lire, comme les médecins. Mais alors, aux États-Unis, le National Institute of Health, c'est l'Institut national de la santé, me soutient le directeur de chef de service, Elliot Gardner, de psychopharmacologie. Enfin, on dit que c'est aussi important comme découverte que le traitement de la maladie de Parkinson, sauf que c'est beaucoup plus important dans la mesure où le nombre de patients atteints est bien plus élevé.
Est-ce qu'on vous écoute aussi ailleurs qu'en France et aux États-Unis, professeur Amezen?
Non, en France, je veux dire, les généralistes m'écoutent et les patients. De toute façon, les patients, vous savez,
c'est la meilleure preuve en réalité.
Ouais, vous avez vu peut-être les patients témoigner.
J'ai entendu les patients témoigner, oui. Effectivement, c'est assez impressionnant.
Comme disaient les Anglais, la preuve du pudding est dans le goût. C'est-à-dire, vous pouvez dire, mais j'ai mis de la cannelle, mais je vous dis, mais Karen, votre pudding, il est mauvais. Quand on a la preuve que le patient est là, vous pouvez avoir un addictologue qui dit, oui, mais c'est pas vrai. En France, on est dogmatique. En Amérique, aux États-Unis, comme en Suisse, comme on est pragmatique, exactement. Donc, partout ailleurs, en France, on a, je dirais, mais c'est pas par hasard, comme je vous l'ai dit, qu'on est fâché avec le prix Nobel en France et que des petits pays comme la Suisse ou Israël, je vous l'avais dit, ont des prix Nobel per capita qui font exploser les nôtres. Je veux dire, pas un Français prescripteur ou qui parle du baclofène n'a écrit un seul article scientifique. Tous les soi-disant professeurs, enfin pas soi-disant, ils sont professeurs de trucs, ils crient contre le baclofène. Moi j'ai 10 articles parus et encore plusieurs en vue dans des revues scientifiques de JAMA, Lancet et autres. Eux en ont zéro. Si vous mettez les noms Michel Reynaud, Michel Zira, Philippe Battel, etc., ces gens parlent du baclofène. Ils le prescrivent, ils disent qu'ils ont des effets secondaires, mais c'est parce qu'ils ne savent pas le prescrire. Moi si je faisais de la chimiothérapie du cancer du sein, ou si je commençais à opérer les appendicites en disant je sais le faire, ben j'aurais 100% de mortalité. Quand on ne sait pas le faire, ben il faut apprendre, il ne faut pas prescrire.
Le baclofène, c'est donc ce fameux traitement qui au départ soignait tout simplement le torticolis et que vous avez donc au cours d'une lecture attentive de résultats de recherches.
200 000, oui.
Abstract, résumé. Des résumés de ces recherches. Vous êtes aperçu que le baclofène pouvait avoir un rôle à jouer dans la fin des addictions.
Oui.
Et c'est assez impressionnant.
Et c'est extraordinaire. Vous savez que la guérison est complète, rapide et sans effort.
Ces témoins qui sont venus à cette conférence, effectivement.
Ils
ont l'air de se sentir parfaitement
bien. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sentent si bien qu'ils arrêtent les médicaments. Donc, c'est pas l'abstinence qui est une torture. Quand vous êtes abstinent, vous pensez que, je sais pas, pour les fumeurs, ils le sauront tout de suite. Je sais pas si vous êtes fumeuse, Karen.
Non,
vous avez de la chance. Mais pour les fumeurs, ils ne pensent qu'à ça quand ils arrêtent. Ici, vous ne pensez plus. Vous avez de l'alcool chez vous, dites, tiens, j'ai oublié. Ou des cigarettes, vous dites, j'ai oublié mon paquet. On a maintenant en France des gens qui traitent Jocelyne Hummel, qui est chef de service de gynéco-obstétrique, traite ses patientes qui veulent avoir des enfants avec le baclofène. Elle a 12 résultats sur 12. Le taux de guérison tourne autour de 70 à 90%.
01 42 10 à 10 11, peut-être que vous avez des questions à poser au professeur Olivier Amezen. Vous pouvez en tout cas en profiter pour ce dernier quart d'heure de notre émission. Olivier Amezen, est-ce que vous pensez que vous aurez le prix Nobel de médecine dans ce domaine?
Oh là là, c'est vraiment une question dont véritablement...
En tout cas, est-ce qu'on en parle autour de vous? Est-ce que vous entendez des bruits?
Il y a bien sûr le professeur Levine, qui est à l'Université de Chicago, qui a 298 sur 300 patients guéris, le dit à ses patients, il mérite le prix Nobel, mais ça c'est du... Je veux dire, vous savez, quand on pense que ceux qui ont découvert les vaccins anti-polio, à la fois Sabine et Saul, que n'auront pas eu, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Moi, ce que je voudrais, c'est que les patients guérissent.
Je pense que c'est ça, c'est que les patients eux-mêmes vous donnent un prix Nobel finalement.
C'est les patients qui me donnent qui a un baume au cœur que je n'ai jamais eu.
Alors je crois que nous avons quelqu'un en ligne, 01 42 17 10 11. Vous allez pouvoir éteindre le poste à côté de vous s'il vous plaît pour qu'on n'ait pas ce bruit en retour, merci. Bonjour, on vous écoute?
Oui, c'était juste pour savoir si pour le baclofène on a également... ça peut guérir quand on a des envies de sucre et qu'on est diabétique.
Là, je n'irai pas si loin que des envies de sucre. Faire attention, parce que lorsqu'on a des envies de sucre et qu'on est diabétique, on peut se trouver en hypoglycémie. Donc, c'est un signal d'alarme. Et il faut, au contraire, si on a des envies de sucre, prendre un verre de jus d'orange. Donc, là, il faut pas... C'est un signal.
Là, il ne faut pas contredire la nature qui fait, au contraire, bien les choses.
Le corps sait très bien ce qu'il fait. Si vous avez des envies de sucre et vous êtes diabétique, faites attention, vous êtes probablement en hypoglycémie.
Merci pour votre question. Nous avons quelqu'un d'autre au 01 42 17 10 11. On vous écoute. Bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
J'ai écouté l'émission à la radio.
Oui.
Et bon, il se trouve que j'ai une fille qui a 20 ans mmh. et qui est anorexique et en même temps boulimique. Et bon, bah, je suis assez inquiet pour elle et puis je me demandais quoi faire. Et en entendant votre émission, il m'a semblé qu'au début, vous disiez que c'était possible avec ce médicament contre l'addiction de manger trop, etc. Je ne sais pas, je me trompe ou...
Non, pas du tout. J'ai moi-même quelques patients, ce sont tous des femmes d'ailleurs, boulimiques, anorexiques, c'est la même maladie du reste. Et sur les deux versants d'une même maladie et qui sont complètement... Vous savez ce qui se passe avec... C'est très simple. La boulimie, c'est comme avec l'alcoolisme, c'est que vous n'atteignez pas la satiété. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un repas, lorsque vous déjeunez, ou moins, bon, on n'a pas envie d'un deuxième repas, parce qu'on atteint la satiété. Par contre, un boulimique, et ça c'est parce qu'il va sécréter de la dopamine, à la fin du premier repas, va reprendre un deuxième déjeuner, puis un troisième, puis 20. Comme un alcoolique, quelqu'un qui n'est pas dépendant peut prendre un verre, deux verres, même trois, et ça suffit. Et il laissera la moitié du troisième verre. Un boulimique ne peut pas s'arrêter. Donc, moi j'ouvrirai personnellement, l'hôpital Cochin m'a demandé, m'a dit que ce serait un grand honneur pour eux de m'offrir une consultation. Ce sera public, je n'ai rien gagné avec cette histoire de baclofène, au contraire j'ai beaucoup perdu. J'aurai une consultation publique. Il y a des... encore une fois, voyez votre médecin généraliste, surtout pas de spécialiste, parce qu'ils n'y connaissent oui. rien.
J'ai bien entendu, oui. Il se trouve que la maman de ma fille est pharmacienne. Est-ce
oui.
que je peux discuter avec elle de cela et même voir si elle peut lui donner directement ou...
Non.
Non, il vaut mieux voir le médecin non. d'abord.
Non. Il ne faut jamais... Vous savez, une prescription non encadrée... le baclofène est tellement anodin que je vais vous faire une confidence. Il y a des publications de suicides, de tentatives de suicide avec baclofène avec 250, les Australiens publiaient ça, comprimés de baclofène et les gens sont sortis sur leurs deux jambes et sans séquelles. Donc avec l'aspirine, il suffit de 20 comprimés pour se suicider, avec le doliprane, c'est la même chose. Donc non, mais néanmoins, il faut toujours un encadrement. Un bon
D'accord.
généraliste, toujours, surtout ne...
Oui,
non.
Très bien.
Non, ne
Très
demandez pas, ne faites pas ça ni par internet, ni par votre épouse,
non, non,
et,
non.
et ça serait une faute. Et, mais par contre, vous pouvez me joindre sur mon www.oliviabezen.fr, vous pouvez m'envoyer un mail dit pharmacien RCJ, ou je sais quoi, je saurai. Je réponds à pratiquement tous mes mails, ce qui me prend la moitié de ma journée à peu près.
D'accord. Écoutez, vraiment, ça me soulage de vous avoir entendu parce que je suis tellement inquiet pour ma fille que...
Ne vous inquiétez pas.
Là, il me semble bien que l'espoir renaît.
Oui, elle revivra. Elle n'aura plus
le malheur. Et le professeur Olivier Mézène a fait renaître l'espoir chez beaucoup de gens et pas que l'espoir puisque vous avez guéri beaucoup de personnes, notamment souffrant d'alcoolisme, puisque c'était au départ cette addiction-là que vous avez ciblée exactement.
C'était la mienne.
Merci pour votre témoignage, monsieur.
Dire,
merci
dizaine...
à vous, au revoir, professeur, au revoir, Karine.
Merci. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre en ligne? Oui. Alors, nous allons... Voilà, 01 42 17 10 11.
Allô?
Oula.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais poser une question au docteur, s'il vous plaît?
Bien sûr.
Avec plaisir.
Merci. Allô?
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 Si vous pouvez éteindre votre radio à côté de vous.
Oui, vous avez raison.
Ce serait beaucoup plus pratique pour nous, merci.
Vous avez raison.
Alors, on vous écoute.
Alors, bonjour docteur, bonjour madame.
Bonjour.
Je suis une accro de la cigarette.
Oui.
Je fume au moins un paquet et demi, quelquefois même un paquet trois quarts par jour. Et j'ai du cholestérol et j'ai des deux coronaires qui commencent à se boucher.
Oh oui.
Donc je suis sous traitement depuis quelques années, mais je n'arrive pas à m'arrêter.
Oui. Vous savez, si vous lisez mon livre, ma mère avait un emphysème et avait de l'oxygène à côté et ne pouvait pas. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout ce mécanisme. Si, vous pouvez prendre Albert Einstein et Arnold Schwarzenegger, l'un pour l'intelligence, l'autre pour la vendredi. Ils ne peuvent pas s'arrêter de fumer. L'intelligence. Parce que ce n'est pas votre cortex qui commande, c'est le système limbique qui est une partie du cerveau. Si on vous demandait d'arrêter de respirer pendant une demi-heure, vous diriez ce n'est pas sérieux. Par contre, avec le baclofène, docteur Jocelyne Hummel à l'hôpital de Montbrison, je ne sais même pas où c'est, a traité 12 patientes. Ces patientes vous disent, c'est curieux, Maintenant, je n'ai plus aucune envie. Et j'ai traité moi-même une ma belle-sœur. Elle dit, je n'ai plus envie de tabac. Je vais faire la pause. Je me réveille. Normalement, je me jetais sur ma cigarette 15 minutes après le réveil. Et maintenant, à 13h, je me rappelle que j'avais des cigarettes. Et elle me dit, je fais les pauses avec mes amis. Et elle fume. Ça ne me dérange en rien. Alors qu'avant, donc tout, bien sûr, ça marche très bien.
J'en profite pour poser une autre question, puisque cette patiente est visiblement traitée pour d'autres problèmes, d'ordre notamment cholestérol, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication entre baclofène et anticholestérolémique, entre des stérols, etc.
Non. Le baclofène, il n'y a absolument aucune interaction médicamenteuse, même avec l'alcool. D'ailleurs, les gens disent, est-ce qu'on peut boire de l'alcool et prendre du baclofène? Oui, il n'y en a aucune. Il y a... demandez-le à votre généraliste pour préciser, mais vous pouvez prendre votre médicament contre l'hypertension, ça se marie avec tout, si je puis dire. Mm-hmm. À moins que vous ayez une insuffisance rénale ou un autre problème, et là, il faut ajuster comme toujours les doses.
Merci beaucoup pour votre témoignage et votre question.
Oui, mais maintenant, je voudrais savoir...
Rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour
l'émission. Oui, mais dans quelle quantité prendre ce baclofène?
De toute façon, comme disait le professeur Amezen, il faut consulter un généraliste qui vous...
Ah, j'entends bien,
qui vous aidera à trouver la dose.
La dose, c'est vous, madame. À vous. C'est vous qui la connaîtrez.
Ah, c'est moi.
C'est vous. Ouais. Quand vous avez mal à la tête, c'est pas le médecin qui... Si vous dites, je n'ai plus mal, il n'y a pas de raison d'augmenter les doses. Donc, c'est vous qui direz, ça ne me fait plus rien.
Mais en moyenne, combien?
Ça dépend d'une personne à l'autre. Pour le tabac, c'est pas beaucoup. Comparé à l'alcool, c'est assez peu, peut-être 120 mg par jour, mais je dis 100, c'est une moyenne.
C'est une moyenne, 120 mg par jour.
Mais c'est vous qui le saurez.
C'est moi qui le saurai. Merci beaucoup, messieurs, dames.
Merci à vous, merci à vous. Nous avons encore quelqu'un d'autre en ligne. Je pense que ce sera le dernier auditeur ou auditrice de cette émission. Bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour docteur, bravo pour votre
découverte,
pour
on peut le dire.
Pour votre trouvaille, ouais, pour votre découverte. Voilà, je vous appelle parce que j'ai mon frère qui est pharmacodépendant au Subutex et je voudrais savoir si votre découverte peut apporter quelque chose à ce problème.
Tout à fait. La méthadone et le Subutex sont des médicaments dangereux. C'est-à-dire que, par exemple, la méthadone ne représente que 4% des prescriptions aux États-Unis, mais est responsable de 30% des suicides par overdose. Le Subutex ne sert à rien, c'est-à-dire c'est un médicament, encore une fois, de substitution pour un seul médicament. Moi, j'ai des patients, un présentateur en particulier de radio aux États-Unis, qui était héroïnomane. Il a tout essayé, méthadone, Subutex, et là, au bout de quelques jours de baclofène, il m'a dit, mais j'arrive pas à le croire, j'ai arrêté le Subutex, j'ai arrêté la méthadone, je vais très bien, et au revoir et merci. Donc, il est guéri. Donc, vous n'aurez pas besoin de ces Subutex et autres.
Mais
ne l'arrêtez pas brutalement. Hein. Attendez que le baclofène vous dise « Je n'ai plus envie de Subutex ».
D'accord. Donc, il faut qu'il aille voir un généraliste.
Son généraliste, oui.
Ouais, tout à fait. Et lui parler, justement, si le généraliste n'est pas au courant, parce que j'imagine que tous les généralistes ne sont pas au courant.
Non, mais avec toutes les références et avec le livre.
Oui, voilà. Venez avec le livre, etc.
Oui, oui. Pour ce message d'espoir, docteur.
Je vous en prie. Il y a un point peut-être que je peux...
Merci infiniment à vous pour votre témoignage et votre question. Allez-y, professeur Amezen.
Ce qui est, vous savez, moi, j'ai écrit, je m'appelle Olivier Amezen, je suis alcoolique. Ma pauvre maman qui n'est plus, ne m'a pas vu guérir, mais elle m'a toujours dit, tu n'es pas alcoolique. C'est une maladie honteuse. Hein. Chez les juifs, on dit shake, hein, et on dit ça n'existe pas chez nous, ce qui est faux. J'en ai connu des juifs orthodoxes qui boivent, qui font de la cocaïne et autres, mais c'est une maladie honteuse. C'est-à-dire que j'ai guéri des membres de l'Académie de médecine, j'ai guéri des addictologues qui sont venus me dire, ou leurs épouses, guérissez-moi. Après, ils m'ont dit, comment vous remercier? Je leur dis, dites simplement, je suis le professeur un tel et un tel, j'ai été guéri par cela. Ils m'ont dit, j'ai honte, je n'ose pas. Il y a une étude, j'ai rendez-vous dans une heure avec la radio-télévision RTBF belge. Eux ont écrit un article, au-delà de 55 ans, un médecin spécialiste sur 5, parmi les spécialistes de plus de 65 ans, plus de 33% ont un problème d'alcool. Donc les médecins ont honte eux-mêmes de cette maladie. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils vous disent, vous êtes le patient, moi je suis le médecin.
Et vous, professeur Olivier Amezen, vous n'avez pas eu honte de raconter votre histoire parce que justement, ça va servir à sauver des vies. Oui, c'est ça le plus important.
Je courais un risque énorme parce que je l'ai fait. J'aurais pu ne plus jamais avoir... On aurait pu me dire, vous savez, vous êtes trop qualifié pour tel poste, etc. Le risque était de détruire ma carrière. Mais j'estimais que ça sauverait des vies et je me fichais de ma carrière. Je voulais sauver des vies, c'est ce que, et Dieu merci, c'est ce qui s'est passé.
Merci. Belle conclusion avec vous, professeur Olivia Mézène. J'espère que justement ce baclofène que vous avez mis, auquel vous avez donné une seconde vie finalement, va permettre de sauver des vies humaines et de plus en plus nombreuses, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci infiniment. Je rappelle votre livre, Le Dernier Verre, paru chez De Noël. Professeur Olivia Mézène, vous allez nous redire le nom du site.
Oui.
Également, comment se procurer ce livre, parce qu'il est en rupture de stock actuellement.
Oui, alors le site, c'est www.oliviermeisen.fr. J'ai dû dire comme au début, mais c'est faux, c'est .fr. Et tapez, ne tapez pas baclofène. Et pour le commander, comme c'est en rupture de stock chez Amazon, choisissez Fnac. Voilà. Et vous l'aurez rapidement.
Et puis vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.radio-rcj.info, ce site qui est magnifiquement orchestré par notre collègue Sabine Amar. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé et une très bonne semaine. Merci professeur Olivia Mézène.
Merci Karen.